Nous allons réfléchir sur ce que représente l'un et le multiple à partir des diverses modalités que je vous rappelais hier. Comprendre comment ces diverses modalités de l'un, je vous les rappelle, pour que vous les ayez bien devant les yeux, dans l'esprit. Nous avons donc la modalité par rapport au jugement d'existence, c'est-à-dire par rapport à la réalité existentielle concrète. Qu'il s'agisse de pierre, ou qu'il s'agisse de ceci, ça n'a pas d'importance. C'est le jugement d'existence qui nous met en présence d'une réalité autre, ayant son autonomie, ayant son unité. Puis nous avions vu comment toute une série de modalités se ramenaient de fait à l'unité prise du côté de la substance. L'unité de la forme qui, de fait, prend sa racine dans l'unité de la substance. Puis toute une série de modalités de l'un qui se rapportent à l'acte. Et enfin, le point de vue de l'ordre. Ce qui montre les différents aspects, si vous voulez, dont nous pouvons essayer de comprendre l'un qui se présente à nous de ces diverses modalités. Alors, qu'est-ce que c'est que l'un? Si on essaie de le comprendre, on voit que de fait, il est toujours relatif à une autre réalité. C'est la première chose qu'on constate. Quand vous saisissez ce qui est, vous dites « cela est un ». Vous ne saisissez pas l'un pour lui-même, sauf dans un domaine mathématique, sauf dans le domaine logique. Et ceci, c'est important à voir, c'est que dans le domaine mathématique et dans le domaine logique, l'un apparaît comme substantiel. Comme substantiel, il ne l'est pas, mais c'est-à-dire comme une réalité première. Tandis que partout ailleurs, dans toutes les expériences que nous avions soulignées hier, et toutes les modalités particulières de l'un, l'un n'apparaît jamais comme quelque chose de premier. Il apparaît toujours comme relatif à autre chose. Et ceci nous aide, par le fait même, à mieux saisir. Alors regardons, si vous voulez, d'abord, dans le domaine où l'un apparaît séparé. Nous voyons qu'il apparaît séparé en fonction d'une abstraction dans le domaine mathématique. L'être mathématique a ceci de privilégié, c'est qu'il relève de fait directement de notre connaissance qui lui donne sa formalité et son unité. De même, l'universel possède son unité comme être de raison, et donc lui aussi par l'abstraction. L'abstraction fait que, quand nous regardons ces êtres qui naissent à partir de l'abstraction, on voit que l'abstraction a cette capacité de pouvoir donner à certaines formes intentionnelles, ne disons pas des réalités, mais des formes intentionnelles, une autonomie telle que l'un apparaît en premier lieu. Reposer la question après. Comment se fait-il que dans le domaine mathématique et que dans le domaine logique, l'un apparaît comme autonome, non relatif? Je crois que ça, c'est quand même très important à souligner. Que de fait, dans ces domaines-là, l'un apparaît comme ayant sa propre autonomie. Et c'est une abstraction spéciale, qu'on appellera l'abstraction mathématique, une abstraction formelle, ou l'abstraction qui fait naître, qui nous permet de regarder l'être de raison, qui permet à ces formes intentionnelles, car en réalité ce sont des formes intentionnelles, l'être de raison repose et se fonde sur une forme intentionnelle. Et l'être mathématique se fonde sur une forme intentionnelle. ces formes intentionnelles permettent de mettre l'un en pleine lumière et de faire que l'un apparaît à ce moment-là comme quelque chose de premier. Alors pourquoi ? Dans les réalités, au contraire, où il y a un jugement d'existence et où je saisis un principe propre au niveau proprement métaphysique, au niveau de la réalité, l'être apparaît toujours comme second. Ceci est, il est un. Le principe, la saisie du principe radical de la substance ou de l'acte aussi implique une certaine unité, engendre une certaine unité. Alors, je suis donc là en présence de quelque chose qui fait que l'unité n'est plus première, elle apparaît accompagnée. Et nous l'avons vu, bon, toutes les expériences, je ne les reprends pas maintenant, mais toutes les expériences que nous avions vues hier dans cette petite enquête que nous faisions pour essayer de découvrir les diverses modalités de l'un, on s'aperçoit que de fait, l'un est toujours vraiment ce qui accompagne la réalité, ce qui vient qualifier la réalité. Alors, qu'est-ce que c'est que cette qualification de la réalité par l'un ? Je crois que si on essaie de comprendre, lorsque je dis ceci est un, ceci qui existe est un, lorsque je dis cette réalité substantielle, en raison même de sa substance, possède une unité radicale, quelque chose d'indivisible, je vois que l'un, je l'exprime tout de suite par l'indivisible. Parce que l'un se distingue du multiple et du nombre. C'est l'opposé du multiple et du nombre. Alors, qu'est-ce que je connais avant tout ? Est-ce que je connais en premier lieu le multiple ou est-ce que je connais en premier lieu l'un ? Ça, c'est une autre question. Ce serait intéressant. Nous y reviendrons à propos de l'opposition entre l'un et le multiple. Mais ce qui est sûr, c'est que l'un s'oppose au multiple. Il implique le fait de ne pas être multiple et plus radicalement de ne pas impliquer de division. De sorte que je crois que vraiment quand je cherche à savoir ce qu'est l'un, c'est le fait de ne pas être divisé. C'est donc la division que je rejette de l'un. Il n'est pas divisé, il est indivis. Or, la division, ce n'est pas quelque chose qui existe dans la réalité. La division, elle existe dans l'intelligence. C'est l'intelligence qui est capable de diviser et qui est capable de nier la division. Donc, l'un, c'est d'essayer de comprendre, d'une certaine manière, la transcendance d'une réalité par rapport à mon intelligence. Cette réalité ne tombe pas sous la domination de mon intelligence capable de diviser, puisque je dis, il n'est pas capable d'être divisé, il est indivis. Donc, par l'un, j'exprime une certaine transcendance de la réalité. Et c'est peut-être ce qu'il y a de principal à noter au point de vue proprement métaphysique. C'est que l'un apparaît, quand je qualifie la réalité d'une, comprenez bien, je qualifie la réalité d'une. Quand je qualifie la réalité d'une, je veux qualifier que cette réalité est antérieure à l'emprise de l'intelligence. Il y a dans cette réalité quelque chose que mon intelligence respecte. Et mon intelligence, pour montrer ce respect qu'elle a vis-à-vis de cette réalité, elle dit que cette réalité est une, c'est-à-dire qu'elle est au-delà de la division. La division, en effet, regarde une de ces opérations de l'intelligence extrêmement fondamentale. Si vous vous rappelez la saisie de la substance, la saisie de l'acte, Nous voyons qu'en saisissant la substance, nous la divisons des accidents. Nous la séparons des accidents. Et nous disons que ce qui est divisé en substance et accident. Et donc la division accompagne toujours l'induction. Il n'y a pas de saisie de principe sans division. Si l'induction est une démarche très fondamentale de la vie de l'intelligence, on peut dire que la division représente une des opérations les plus fondamentales de la vie de l'intelligence. Qu'est-ce que ça représente, la division? L'intelligence capable de diviser. C'est-à-dire capable de nier. S'il n'y avait pas de négation, il n'y aurait pas de division. Hein, c'est bien évident. Alors, est-ce que dans la division, je montre le primat de l'affirmation? Et la négation vient là pour montrer le primat de l'affirmation, quand je divise. Et quand je dis indivis, je montre que justement la réalité peut être affirmée et que la négation est là uniquement pour montrer la transcendance de cette affirmation. Affirmer « ceci est un » veut dire que ceci qui existe échappe d'une manière ou d'une autre à cette domination de l'intelligence qui divise. Quand l'intelligence divise, elle domine. Quand l'intelligence divise, elle actue. Alors je commence à comprendre pourquoi en mathématiques, l'un apparaît en premier lieu. Comment dans l'être de raison, l'un apparaît en premier lieu, puisque ce sont des formes intentionnelles qui n'existent qu'en fonction de l'actuation de l'intelligence. C'est l'intelligence qui les actue. C'est l'intelligence qui leur donne leur être propre. C'est l'intelligence qui leur donne leur autonomie, leur forme propre. D'où on comprend comment l'un apparaît comme la chose substantielle. Au fond, c'est la seule chose que l'intelligence peut faire. Elle ne réalise pas l'être, mais elle réalise l'un. Et elle peut réaliser l'un. Elle peut réaliser l'un par le fait qu'elle divise et elle montre quelque chose qui n'est pas divisé. Donc elle peut formaliser une forme intentionnelle et lui montrer qu'elle est au-delà de ce que représente la division. Vous voyez, c'est curieux cette chose-là. Je crois qu'il faut essayer de saisir cette manière dont l'intelligence, dans l'ordre mathématique, est capable de former un être par l'abstraction. Et elle est capable de montrer que cet être qu'elle forme par l'abstraction, il est un avant tout. Tandis qu'au contraire, quand l'intelligence est en présence d'une réalité qui existe, l'intelligence affirme l'existence de cette réalité, et pour montrer que cette réalité dépasse la connaissance, que cette réalité est antérieure à la connaissance, l'intelligence dit « elle est une ». Mais alors l'unité vient qualifier cette réalité pour montrer sa transcendance. Je pourrais dire, voyez, que l'unité fait deux choses différentes. Une unité formelle montre le pouvoir de l'intelligence capable de se donner à elle-même un être propre. L'intelligence est capable de se donner à elle-même une forme intentionnelle, une. L'être mathématique. L'être mathématique, c'est l'intelligence qui se le donne à elle-même. Ce n'est pas une réalité qui existe. L'être mathématique n'existe qu'en fonction même de l'activité de l'intelligence. Et c'est l'intelligence qui se donne à elle-même cet être. Alors cet être est avant tout un. il est plus un que être, si j'ose dire, parce qu'il n'est qu'en fonction de son une idée. Tandis qu'au contraire, dans la réalité, dans le jugement d'existence, quand l'intelligence saisit une réalité qu'elle affirme comme existante, elle affirme d'abord son être. Et en affirmant l'un, elle montre que l'intelligence est soumise à cette réalité. Nous avons donc cette chose curieuse que l'un, à la fois, montre le pouvoir de l'intelligence et l'un montre en même temps la limite de l'intelligence. Je ne sais pas si vous saisissez suffisamment, c'est assez subtil, mais bon, je crois que c'est important à saisir parce que ça fait comprendre comment l'un est une plaque tournante. Et c'est vrai, l'un est une plaque tournante. Il est une plaque tournante entre le néoplatonisme et l'aristotélisme. C'est là où je vois la jonction des deux. Ce n'est pas à propos de l'être, parce qu'à propos de l'être, l'option est déjà faite. Tandis que lorsqu'il s'agit de l'un, je peux essayer de comprendre comment l'un peut être traité comme un absolu plus que l'être, et comment l'un peut être traité comme acolyte de l'être. Vous voyez, prenez ce point de vue-là pour essayer de saisir dans cette recherche de savoir qu'est-ce que c'est que l'un. Saisir ces deux aspects qui sont irréductibles. Hein. Vous avez là deux types d'unités qui sont absolument irréductibles. Vous avez dans le domaine mathématique où l'être mathématique est ordonné à l'un. Donc l'un constitue l'être mathématique. C'est pas l'être qui constitue l'être mathématique. L'être mathématique n'a pas de substance. L'être mathématique n'est qu'un être relatif. L'être mathématique n'est qu'un possible. Il n'est pas autre chose. Et c'est l'un qui donne la structure du possible et qui donne la structure du relatif. Alors, il faut donc bien voir ce premier domaine pour nous, quoi, de nos, pour nous, par rapport à nous, il est premier. L'intelligence mathématique se donne à elle-même son objet. Elle se donne à elle-même son objet par le point de vue de l'abstraction formelle et par la division, elle actue. Et en divisant, elle actue et elle montre que ce qui est actué par la division, par le fait même, possède une certaine indivision. Après la division. Deuxièmement, lorsqu'il s'agit de la réalité ceci est, donc la réalité au niveau proprement de la philosophie première, ici au domaine mathématique, l'un apparaît en second lieu. C'est pour ça que je dis que c'est la plaque tournante, vous voyez, où vous mettez l'un avant l'être, où vous mettez l'un après l'être. Et vous voyez là la jonction entre les deux. Ici, vous êtes en face de l'unité formelle. La mathématique est une unité formelle. C'est une unité donnée par l'abstraction. Donc, c'est une unité formelle. En réalité, l'être mathématique, ce n'est pas un être. On dit bien l'être mathématique, mais ce n'est pas une réalité. C'est l'être qui est formellement un. C'est très curieux. L'être qui est formellement un et qui est à partir du possible. Puisque c'est l'intelligence qui divise le possible et qui, en divisant le possible, l'actue. Et en divisant le possible, l'actuant se donne à elle-même son propre objet. Tandis qu'au contraire, lorsqu'il s'agit de la réalité existante, je constate que l'un, quand j'affirme ceci est un, en affirmant ça, j'affirme que je suis en face d'une réalité qui dépasse mon intelligence. Elle est indivisible. Mon intelligence ne la domine pas. C'est pour ça que je dis que l'un, à la fois, montre le pouvoir de l'intelligence capable de se former à elle-même un monde du possible, un monde mathématique. Elle se forme à elle-même ce monde mathématique. Et en même temps, l'un manifeste, et c'est très beau de voir cela, l'un manifeste combien l'intelligence est toute relative à la réalité existante. Oui, c'est la propriété qui manifeste la transcendance de l'être. C'est la propriété, ça vient ensuite. C'est relatif à. Et donc la propriété va manifester la transcendance de l'être, va montrer que la réalité que j'atteins dans le jugement d'existence, il est cette réalité, je ne peux pas la diviser. Elle est indivise. Et donc, elle transcende. C'est vrai, quand j'affirme que quelque chose ne peut pas être divisé, j'affirme que cette réalité est au-delà de mon emprise. Puisque l'intelligence domine en divisant. C'est très bien. C'est toujours la grande manière de dominer, hein. C'est de diviser. Alors, diviser ce qu'on peut diviser. Et quand vous êtes en face de quelque chose qui ne peut pas être divisé, vous êtes obligé de vous reconnaître que vous êtes obligé de le reconnaître comme quelque chose qui passe devant vous. Vous voyez, quand Aristote dit que le fait qui existe est principe, c'est parce qu'il est un. La réalité qui existe, dans son existence même, a quelque chose d'individu. Donc, elle a quelque chose du principe. Si l'un est l'apanage du principe, si le propre d'être un, c'est l'apanage du principe, c'est-à-dire l'apanage de ce qui est premier est individu. Quand vous affirmez que ceci qui est un, vous l'affirmez comme un principe pour votre intelligence. Donc vous l'affirmez pour quelque chose devant lequel vous êtes obligé de vous référer, devant lequel vous vous inclinez. Et ce n'est pas l'être qui montre ça en premier lieu, c'est l'un. C'est l'un qui le manifeste. Donc on peut dire d'une certaine manière, voyez, au point de vue métaphysique, on peut dire que l'un manifeste la transcendance de l'être. Je crois qu'on peut dire ça. C'est en ce sens-là qu'on peut dire que l'un est la gloire de l'être. Et qu'il est la propriété. Parce qu'il manifeste que l'un est, il manifeste que ce qui est transcende. Dépasse l'intelligence, est premier par rapport à l'intelligence. Et l'intelligence le reconnaît en affirmant que ceci est un. Tandis qu'au contraire, lorsque l'intelligence, dans le point de vue mathématique, réalise son domaine propre et sa forme intentionnelle propre par l'être mathématique, cet être mathématique est lui au contraire l'œuvre de l'intelligence. Et l'un apparaît alors antérieur à l'être. Plus immanent par rapport à l'intelligence que l'être. Et l'être est relatif à l'un. Donc, si je réfléchis de cette manière, ces deux unités, l'unité formelle du côté mathématique, l'unité existentielle du côté métaphysique, je vois que l'un, c'est toujours ce qui est au-delà de la division. Ce qui peut être le fruit de la division et ce qui est au-delà de la division. Il est le fruit de la division en ce sens qu'il l'a dépassé, comme le fruit. Mais il provient de la division. Et donc il est le fruit. Et il est aussi ce qui dépasse la division, ce devant lequel je suis devant presque, j'allais dire, un mur, je ne peux pas le diviser. Je suis devant le roc. Je ne peux pas le diviser. Je suis devant un principe. Je suis devant quelque chose que je ne peux pas diviser. C'est donc bien le point de vue de l'indivision. Donc, le fait que je nie la division qui manifeste ce que c'est que l'un. Alors, à ce moment-là, je vois que l'un est parallèle à l'être. Tout ce qui est, dans la mesure même où il est un. Tout ce qui est, dans la mesure même où il est un. Et je commence à comprendre que je peux préciser que la réalité est une par sa substance. que la réalité est une par son acte, que la réalité est une par son ordre, que la réalité est une dans la mesure même où j'ai saisi la racine de cette unité, la racine de son être. Alors essayons de comprendre maintenant, si vous voulez, une fois que j'ai saisi que l'un montre la transcendance de l'être, et que je vois que dans la mesure même où l'être est... Vous voyez, transcendance, il manifeste la transcendance de l'être. L'être transcende l'un, c'est bien évident. Mais manifeste, soulignez bien. C'est pour ça que je disais la gloire, c'est la manifestation. L'un manifeste la transcendance de l'être. Ce n'est pas la transcendance de l'être. Hein. Parce que si c'était la transcendance de l'être, vous, tout de suite, vous iriez vers le néoplatonisme. Mais vous voyez la différence entre les deux. C'est que nous disons que l'un manifeste et l'autre dit l'un est transcendance. C'est toute la différence entre les deux. Et là, je crois qu'on touche vraiment le point où il y a la rencontre des deux, du néoplatonisme et de l'aristotélisme. Alors, c'est intéressant, puisque si le néoplatonisme est vraiment la forme de la philosophie la plus courante à travers tout notre monde occidental, c'est intéressant de voir le point exact où il y a les différences entre les deux. L'un, manifestation de la transcendance de l'être, l'un, transcendance de l'être. Et les mathématiques sont là pour nous faire comprendre comment il est bien manifestation de l'être. Manifestation de la transcendance de l'être. Alors, si j'essaie de montrer comment l'un accompagne l'être, et donc manifeste sa transcendance, que l'un, s'il accompagne l'être, est propriété de l'être, je peux dire que toutes les modalités de l'être, toutes les diversités de l'être que nous avons vues en analysant ce qui est du point de vue de l'être, vont trouver leur propre unité. Ça, c'est très important à saisir. C'est que l'un ne divise pas l'être, ne divise pas l'être, puisqu'il manifeste l'indivision de l'être. L'un ne divise pas l'être. L'être n'est pas divisé en un et multiple. C'est là une petite phrase de saint Thomas que j'ai beaucoup de peine à comprendre, parce que saint Thomas dit que l'un et le multiple divisent l'être. Je ne crois pas qu'Aristote l'ait dit une seule fois. Alors c'est intéressant à voir. Parce que je crois que si on voulait montrer l'opposition entre Aristote et saint Thomas, c'est sûrement un des points qu'on devrait mettre très en lumière. Alors où saint Thomas ne fait pas grande attention, c'est possible. Il commente en tant que théologien. Parce que saint Thomas dit que l'un et le multiple divisent l'être. Ça m'a toujours choqué dans mon sens métaphysique. Parce que je ne crois pas que l'un et le multiple divisent l'être. Tandis qu'au contraire, la substance, je prends ça parce que c'est important à saisir, la substance et l'accident divisent ce qui est en tant qu'être. L'acte et la puissance divisent. Il y a vraiment des divisions. Alors saint Thomas continue, l'un et le multiple divisent l'être. Je dirais non. Au plan purement métaphysique, l'un et le multiple ne divisent pas l'être. Pourquoi ? Parce que l'un et le multiple, s'il accompagne ce qui est, ne peut pas le diviser. Il est relatif. Alors il faut dire que l'un et le multiple divisent l'être par la substance, divisent l'être par l'acte, mais pas directement. Et donc, ce n'est pas juste de dire au sens propre qu'il y a trois divisions de l'être. Une, deux, trois. On ne peut pas dire ça au plan strictement métaphysique. Dans un langage un peu plus souple, je peux le dire, puisque par l'intermédiaire de la substance, par l'intermédiaire de l'acte, l'un divise l'être. Mais pas directement. Pourquoi ? Parce que justement, c'est quelque chose de second. Alors, quelque chose de second ne peut pas diviser directement l'être. L'un n'est pas un principe, n'est pas arché. L'un n'est pas principe, l'un est second. Si l'un était principe, vous comprenez très bien, je ne pourrais pas avoir les mathématiques. Ça va loin, ça. L'intelligence humaine ne pourrait pas former les mathématiques en disant que l'un est le caractère propre des mathématiques. Il faut que l'un soit propriété pour qu'il puisse être détaché de l'être et être formalisé. Autrement, il ne pourrait pas. Je ne peux pas faire des mathématiques à partir de la substance. Formaliser la substance et y ait des mathématiques de la substance, impossible. Formaliser l'acte et y ait des mathématiques de l'acte, impossible. Parce qu'alors à ce moment-là, mon intelligence formerait des êtres substantiels, des êtres qui seraient actes. Et alors, ce serait l'intelligence créatrice. Les mathématiques ne sont pas créatrices. Elles sont créatrices formellement parlant. Mais elles ne sont pas créatrices au niveau métaphysique de l'être. C'est vrai que l'intelligence mathématique crée son objet. Elle le formalise et elle le crée. Mais elle ne peut le créer que parce que l'un est propriété. Alors la propriété peut être séparée. Je peux la formaliser. Il n'y a là absolument aucune difficulté. Je peux formaliser une propriété et en la formalisant, je lui donne un être substantiel. Et en lui donnant un être substantiel, j'ai un nouveau domaine que je vais regarder. Et ce sera ce domaine mathématique. Et alors c'est très intéressant de voir que historiquement, les mathématiques ont commencé avant la métaphysique. Ce qui est tout à fait normal. Parce que la propriété est toujours pour nous quelque chose de plus connu que ce dont elle vient, que sa source. Et c'est pour ça que historiquement, le domaine mathématique a commencé avant, parce que la propriété peut être plus facilement formalisée. On comprend comment, de fait, on peut mieux connaître l'un qu'Adnos par rapport à nous. L'un apparaît comme premier et apparaît comme quelque chose de plus immédiat que l'être. L'être apparaît après. Mais une fois que l'être apparaît, l'un est relatif. L'un est relatif. On sait très bien que Zénon a eu de la peine d'accepter ça, n'est-ce pas ? Selon le Parménide de Platon. Zénon a eu beaucoup de peine d'accepter que l'être, que l'un soit relatif à l'être. Et alors il a voulu montrer l'un au sommet de tout. Alors que dans le Parménide authentique, l'être est premier et l'un vient après. Alors, si l'un est relatif à l'être, les divisions de l'être et les divisions de l'un vont être parallèles. Je pourrai donc comprendre pourquoi l'être est un. Vous voyez ça? Là, j'entre dans le point de vue de la démonstration de l'un comme propriété de l'être. Si l'un accompagne l'être, je le constate. Le constater n'est pas suffisant. Je peux me poser la question, pourquoi l'un accompagne-t-il l'être ? Il faut se poser la question, pourquoi l'un accompagne-t-il l'être ? Et alors à ce moment-là, je peux le comprendre parce que j'ai saisi les causes selon la forme et selon la fin de ce qui est. Si j'ai saisi les causes selon la forme et selon la fin de ce qui est, je peux comprendre pourquoi l'être est un. Parce que l'être est fondamentalement substance. L'être est ultimement acte. Si l'être est fondamentalement substance, et que la substance est principe, et que le principe est essentiellement indivisible, je comprends que l'être est nécessairement un. Si l'acte est fin, et que la fin est essentiellement indivisible, je peux dire que dans la mesure où l'être est acte, il est un. Vous voyez la démonstration que je puis donner au point de vue métaphysique pour essayer de comprendre comment, quand je constate que l'un accompagne l'être, je peux dire que que nécessairement, dans la mesure même où la réalité existe, elle est substance. Dans la mesure même où la réalité existe, elle est acte. Et donc, dans cette même mesure, elle est une. Ceci permet de comprendre comment la réalité individuelle, c'est-à-dire moi-même, c'est notre tâton de poux, je suis un et multiple, ça c'est bien évident, puisque je suis corruptible. Si j'étais absolument un, je serais au-delà de toutes les divisions. Tandis que la corruptibilité me rend vulnérable à la division. Un jour, je serai divisé en deux. La mort, c'est la division. C'est la division, c'est la séparation de l'âme et du corps. Donc c'est la division. Donc il y a en moi une divisibilité fondamentale, une capacité d'être divisé. Et pourtant je suis un. Alors, vous voyez là tout de suite la transposition du problème de l'un au niveau de ma manière d'exister. C'est qu'en effet, j'existe bien grâce à ma substance. J'existe bien parce que je suis en acte, mais ma substance se réalise de telle manière qu'elle se réalise d'une substance qui implique la matière. Je suis une substance composée. Je ne suis pas une substance simple. Et vous non plus. Si vous aviez le privilège d'être une substance simple, vous seriez absolument au-delà de toute division. Et donc, vous seriez absolument incorruptible. Mais parce que, de fait, vous êtes une substance composée, que votre principe substantiel s'accompagne de la matière qui, elle, est radicalement en puissance, il y a donc, à l'intérieur même de votre unité, une potentialité qui reste divisible. Et s'il y a cette potentialité en vous qui reste divisible, il y a donc en vous une vulnérabilité au niveau métaphysique, une fêlure, pour employer le terme de Kierkegaard, il y a en vous une fêlure par où vous êtes divisible. C'est terrible d'être divisible, hein, parce que si on secoue un peu trop, les deux parties vont partir, c'est évident. Quand on est absolument indivisible, il n'y a pas de danger, secouer, il n'y a pas de danger. C'est indivisible. Vous n'arriverez pas. Tandis que si on sait qu'il y a en nous une vulnérabilité, une fêlure métaphysique, ça fait qu'il y a en nous quelque chose qui peut être divisé. Et la source, c'est justement la matière. Et par la matière, il y a une multiplicité en actes qui est actuelle. Et cette multiplicité en actes qui est actuelle, ce sont les accidents. Je suis donc un et en même temps je suis multiple. Alors là, je commence à comprendre comment l'unité qui est en moi est une unité d'ordre et d'harmonie. Parce que je suis un et multiple en même temps. Et c'est ce qui fait la difficulté de saisir ce que c'est que là. Parce que je suis un, c'est bien évident qu'il y a dans mon être une unité parce qu'il y a en moi une substance. Parce qu'il y a en moi une âme spirituelle. Mon âme spirituelle me donne l'unité de mon être et de ma vie. Il y a une source radicale d'être et de vie. Et donc, il y a en moi quelque chose d'indivisible, au-delà de toute division possible. On n'arrivera jamais à diviser mon âme. Au moins là, il y a une petite forteresse, hein. On n'arrivera jamais. Secouez bien, vous n'arriverez jamais. Vous n'arriverez jamais à diviser ma substance. Jamais. C'est imprenable. Tandis que vous pouvez arriver à diviser ma vie. Vous pouvez à diviser mon devenir, qui implique le point de vue des accidents et de la matière. Donc, mon unité existentielle implique une composition existentielle. Mon unité existentielle implique une division existentielle, implique une multiplicité existentielle. Je ne suis pas totalement un. Alors que radicalement, il y a en moi une substance qui réclame l'unité. Donc vous voyez comment nous pouvons démontrer au niveau métaphysique ce problème que l'un est bien propriété de l'être. Et donc, dans la mesure même où mon existence m'est donnée par ma substance, et que mon existence est actuelle, il y a quelque chose dans moi d'indivisible. Mais comme ma substance s'accompagne de ma matière, et que comme mon acte existant ou mon acte d'être se réalise à l'intérieur même d'une potentialité radicale qui est la matière, il y a donc en moi une complexité. Alors ça peut être comprendre, voyez, pourquoi il y a un grand rêve dans l'humanité de rêver des êtres qui sont purement formels et qui sont purement un. Quand même, essayez de comprendre pourquoi ce domaine mathématique. Pourquoi ce domaine mathématique séduit tellement l'intelligence humaine? Est-ce que ce n'est pas parce que justement, je n'arrive jamais au niveau métaphysique à trouver l'impur? Dans le domaine métaphysique, je trouve toujours cette complexité. Ce que je vous avais dit, dans le domaine physique, je ne trouve pas l'impur. Le divisible est premier. Dans le domaine métaphysique, je découvre l'un, mais je découvre l'un toujours accompagné de la multiplicité. Je ne découvre que l'ordre, que l'harmonie. Vous n'avez jamais découvert l'un, absolu. Et pourtant, nous en avons une nostalgie. Et j'ai cette nostalgie de l'un. J'ai cette nostalgie de la simplicité au niveau artistique. Un Matisse à la fin de sa vie, c'est un de ceux qui le montre le mieux. Une nostalgie terrible de simplicité. Laisser tomber toutes les choses secondaires pour arriver à la plus grande simplicité. Et à la fin, c'est tellement simple qu'on ne sait plus très bien. Et c'est vrai, quand on a une nostalgie terrible, au bout d'un certain temps, il n'y a plus que le trait. Alors, c'est magnifique, un trait. Mais on aimerait mieux peut-être qu'il y ait aussi un peu plus. Mais sur le fond, c'est cette nostalgie. Il y a une nostalgie terrible au niveau artistique de la simplicité. Il y a une nostalgie au niveau de l'intelligence, les mathématiques. C'est parce que, de fait, je suis obligé de m'évader du domaine existentiel, du domaine physique, pour trouver l'un à l'état pur. Je ne le trouve pas directement dans le monde métaphysique, dans le monde proprement métaphysique et physique, donc dans ce qui est le domaine de mon expérience. Et alors, pour découvrir cet un pur, je dois m'évader, c'est une évasion, ou artistique, ou métaphysique, ou, je veux dire, ou mathématique, ou peut-être logique. Ce sont les trois domaines où, de fait, je trouve l'un comme pouvant être à l'état pur. L'un artistique dans une purification toujours plus grande, il sera jamais absolument pur. L'artiste n'arrivera jamais à la simplicité absolue, puisque même la ligne n'est pas simple. Mais elle évoquera la simplicité. Donc elle évoquera la nostalgie de l'artiste. Parce que la ligne n'est pas simple, bien évident. Mais elle va évoquer quelque chose. Et alors je crois que dans le domaine artistique, on peut évoquer la simplicité. Dans le domaine mathématique, j'arrive à une formalité de l'un beaucoup plus grande. Mais dans le domaine mathématique, l'un ne sera jamais séparé du multiple, puisque c'est l'un dans le relatif. Puisque l'être mathématique qui est un, formellement, implique toujours le multiple. On ne peut pas se séparer de la relation. Dans le domaine logique, l'un est lié au multiple, l'universel. Donc, cette évasion pour trouver l'un à l'état pur ne peut jamais se réaliser parfaitement. Alors, je comprends cette nostalgie la plus grande qui consiste à dire l'un est au-delà de l'être. C'est lui qui transcende tout. Et alors, vous avez la dernière nostalgie du néoplatonisme, qui est une nostalgie à la fois artistique, à la fois mathématique, voyez, et qui est cette nostalgie logique, qui est une nostalgie absolue, trouver l'impur, arriver à trouver l'impur. Alors vous allez dire, mais pourquoi j'ai cette nostalgie? Pourquoi j'ai pas la nostalgie de l'être? Non, j'ai pas la nostalgie de l'être. Pourquoi j'ai pas la nostalgie du bien? Je n'ai pas la nostalgie du bien, j'ai la nostalgie de l'un. Et il n'y a que l'un qui me donne cette nostalgie. Il n'y a que l'un. Vous allez me dire, pourquoi? Pourquoi, de fait, l'un polarise mes nostalgies? Parce que l'être, je le saisis en tant qu'il existe. Donc, l'être, je ne peux pas le saisir, je ne peux le saisir que dans un réalisme. Le bien, je ne peux le saisir qu'à partir de l'amour. Je n'ai pas un idéal du bien. C'est impossible. Le bien, c'est quelque chose qui existe et que je le saisis dans l'amour. Tandis que l'un,